À temps d'arrêt aujourd'hui, un pèlerin acadien sur le chemin de Compostelle. Jacques Frigo de Tracadie-Chaila nous raconte son long et pénible pèlerinage. Bonjour tout le monde, Gérard Leblanc ici. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission « Temps d'arrêt ». Il est de retour après avoir vécu une expérience tout à fait inoubliable. Jacques Frigo a relevé un grand défi personnel, un pèlerinage à pied des centaines de kilomètres, confronté à plein d'obstacles physiques et émotionnels. Ils étaient 150 environ au départ. Il est l'un des 3 ou 4 qui ont terminé cette épreuve. Bonjour Jacques.
Bonjour Gérard.
Vous êtes en pleine forme, en bonne santé aujourd'hui?
Oui, je suis en pleine santé.
Vous êtes revenu?
Oui. J'avais dit à mon médecin que quand j'arriverai, je prendrai les tests, pas avant de partir. Je ne veux pas qu'il change mon idée.
Vous nous aviez expliqué, Jacques, ce que c'était que ce pèlerinage-là, puis je me souviens que vous étiez très conscient de comment c'était exigeant et que c'était vraiment un grand défi à relever. Est-ce que, en résumé, là, est-ce que ça a été à la hauteur du pire qui pouvait arriver ou ça a été à la hauteur de vos attentes?
En fait, c'était jamais plus que mon propre dépassement. En fait, disons, c'était tout le temps la mesure de où j'en suis rendu dans ma propre vie. Mais il reste quand même que chaque jour, c'était une expérience inoubliable, une journée avec beaucoup d'imprévus. Puis il n'y avait jamais une qui se ressemblait, donc je pouvais jamais comme prédire d'avance un peu comment je vivrais la journée qui suivrait. J'essayais de vivre 24 heures à la fois.
On dit aux gens, c'est un pèlerinage, il y a là tout un cheminement spirituel qui se fait parallèlement aux épreuves, parce que c'est marcher chaque jour des obstacles incroyables, du découragement, de la fatigue, mais en même temps, il y a un progrès spirituel qui se fait. Oui. Est-ce que je vois bien la chose?
Oui, en fait, je pense qu'on marche avec la même attitude qu'on a grandi dans la vie. On a une période dans la marche qui est l'enfance, avec tout son enthousiasme, avec toute son excitation intérieure, avec toute sa pureté aussi. Puis là, après, rentre l'adolescence avec la rébellion, avec tout ça, disons, qui est contre un peu le conformisme. Puis après, vient un peu plus l'âge, un peu plus avancé, un peu plus de réflexion. Puis, pour venir à cette paix-là, qui sera intérieure à un moment donné. Puis après ça, c'est de le laisser aller, un peu comme dans la période plus âgée, où il faut accepter qu'on l'a vécu à mi-chemin, quelque part, disons, ce dialogue-là, puis que là, maintenant, on s'en va vers quelque chose de plus conformiste.
Rappelez-nous, pourquoi vous avez décidé de marcher 900 kilomètres dans les montagnes et dans la boue?
Bien, je pense, j'avais mentionné à l'émission initiale que ça se situait dans un cadre de trois ans. La première étape, en fait, dans la tradition chrétienne, ce que je voulais, c'était souligner les 3 années qui mènent au grand jubilé de l'an 2000. Puis, je m'avais donné comme moyen personnel, suite à une interpellation de lecture, que je voulais rendre grâce, en fait, je voulais remercier pour tout ce que j'avais reçu à travers de la vie, autant les bons moments que les moments les plus difficiles. Puis, je m'avais choisi de souligner chaque année une étape, une personne de Dieu dans les 3 personnes. Donc, la première année, j'avais été vivre un jeûne de globalisant 40 jours, mais avec seulement, disons, 2 semaines ou 10 jours à l'eau seulement. Puis, c'était pour remémorer ce que le Christ avait vécu avant d'aller vivre sa mission. Ça, j'avais décidé que ça serait un bon moyen de communier avec ce que lui avait pu vivre. Après, je m'avais rendu en Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, où j'avais été visiter un lieu d'apparition de la Sainte Vierge pour souligner la 2e personne qui serait le Saint-Esprit. Puis pour remercier, disons, pour toutes les grâces, tout ce que j'avais reçu. Puis ça avait été une belle expérience aussi d'une dizaine de jours. Puis là, finalement, on s'en allait souligner la fête du Père, en fait, qui est cette année, en 99. Puis j'avais choisi le chemin du pèlerin parce qu'on est pèlerin dans la vie. On vient ici de naissance à mourir. On vient faire un pèlerinage. On vient apprendre quelque chose. Puis on vient donner quelque chose. Puis je voulais remercier pour tout ce que moi j'avais appris, puis tout ce que j'avais donné jusqu'à cette étape-là. Donc, ça se situe dans un tridium qui mènera au grand jubilé de l'an 2000, qui est la grande fête.
Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. C'est un trajet de près de 900 kilomètres. C'est 800 quelques kilomètres, mais vous vous êtes perdu.
Oui, j'ai perdu plusieurs fois.
Vous avez décidé d'en faire un peu plus pour être sûr que tout soit là. Combien de jours, combien de kilomètres au juste, puis combien de paires de souliers?
Okay. Initialement, c'était supposé d'être un voyage de 40 jours à 20 kilomètres par jour. Mais j'ai vu que, ben, peut-être aussi à cause de la solitude, okay? Mais il reste quand même, j'ai commencé de 20 à 25 kilomètres par jour pendant 2 semaines. Puis éventuellement, mon métabolisme s'avait adapté. Physiquement, je me sentais un peu plus capable de marcher plus longtemps. Puis là, j'ai augmenté à peu près de 30 à 37 kilomètres par jour. Ça, naturellement, ça avançait plus vite. J'ai eu des épreuves dans le chemin qui m'ont ralenti, mais j'avançais quand même parce qu'il y a eu comme 3 ou 4 jours que je n'ai pas marché, puis qu'il a fallu que je récupère. Mais je l'ai tout fait dans les 30 jours. J'ai seulement utilisé une paire de souliers. Celle qui m'avait été recommandée au départ était celle qu'il me fallait. C'est certain que j'ai eu des hésitations à être là, disons, pour des raisons parce que pratiques. Mais quand je prends en considération tous les facteurs, c'était la meilleure paire de souliers. Puis, à part de ça, tout a été comme prévu, en fait, sauf pour les difficultés physiques. Mais ça, je m'y attendais, mais je ne savais pas comment ça viendrait à...
Il faut expliquer aux gens qu'il y a deux genres de pèlerinage. Parce que vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire « Je suis allé déjà à Saint-Jacques-de-Compostelle ». Il y a les pèlerins qui vont en autobus, en autocar, qui chaque soir couchent dans les auberges ou les hôtels et marchent juste ce qu'il faut pour avoir leur certificat. Il y a ensuite les vrais pèlerins qui sont les 150 dont on parle, dont vous faisiez partie, Jacques, qui marchent et qui marchent seuls et qui marchent dans des conditions très, très difficiles. Donnez-nous une idée de... Ce n'est pas un beau sentier là, éclairé.
Non, chaque jour, c'est vraiment une épreuve. En fait, beaucoup d'imprévus. Des jours, c'est monter de la montagne, peut-être à peu près comme 25 km, 27 km, en ligne directe, sans zigzag, continuellement, petit pas à petit pas.
Dans les Pyrénées, là.
C'est ça. D'autres jours, c'est dans la boue jusqu'aux genoux. Puis c'est à se soulever les jambes, disons, pour faire notre 25 ou 27 kilomètres.
Dans la boue toute la journée?
Ouais. En fait, c'est qu'il y a des jours de... faut tout le temps se rappeler, c'est pas un chemin touristique. C'est comme si on prenait de Moncton à Montréal, mais en coupant doigt à travers dans une ligne directe. À ce moment-là, c'est un sentier où deux peuvent marcher côte à côte, pas tellement plus large la plupart du temps. Il y a des jours qu'il y a des gens qui font le pèlerinage à cheval. Donc, s'il pleut en plus, ça fait de la boue. Donc, on marche dans le même chemin. Ça, si j'ai vu des gens le faire en mule, je l'ai vu le faire en bicycle. Malgré qu'en bicycle, la grande majorité se servent de d'autres routes, qui seraient la route nationale. Mais même à ça, il y en a beaucoup qui suivent jusqu'à un certain point plusieurs de nos routes à nous autres. Il y en a en fait qui le font, comme tu le disais, en autobus. Mais il y en a qui le font une journée de marche, une journée d'autobus, une journée de marche, une journée d'autobus. Il y en a d'autres, en fait... qu'ils ont le beau petit sneaker blanc, puis ils marchent, puis le soir, il y a quelqu'un qui emmène leur valise, puis ils sont dans leur hôtel, mais ils marchent des montants limités, comme de 100 km, et ils reviendront à chaque année refaire un petit 50 ou un petit 100, tout en avançant sur le chemin. Pour ceux qui le font dans l'entité, là, c'est beaucoup plus restreint. On dirait que sur les 20 000 qui le tentent, il y en a peut-être à peu près comme 4 000 qui le marchent de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. sur les 4000 à peu près, il y en aura à peu près 400 qui l'accompliront. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui abandonnent? C'est toutes sortes de raisons qui sont souvent physiques. Ça aurait pu m'arriver tout autant à moi que j'ai été chanceux, là, mais en fait, c'est des tendinites, c'est des entorsements, c'est des ampoules, c'est des infections de différentes sortes. En fait, c'est le manque de résistance, l'incapacité physique. Parce qu'il y a des gens, c'est incroyable, ils sont d'un gros poids, ils n'ont jamais marché, puis ils pensent faire ça pour l'offrir en sacrifice, puis ils font une journée ou deux, puis arrêtent, parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin.
Parce qu'il faut dire que vous vous étiez bien préparé pour ceux et celles qui n'étaient pas là pour,
au cours de la dernière émission. Pendant 3 ans, ou à peu près 2-3 ans.
Pour préparer tout ça.
C'est ça, tous les 2-3 jours, je marchais comme un 5 km, puis à la fin, disons, un peu plus, ça, j'étais quand même raisonnablement en forme.
Vous m'avez dit, Jacques, que ce pèlerinage, c'est vraiment une conquête de ses limites personnelles. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça?
Si notre vulnérabilité, c'est une vulnérabilité physique, c'est là que le chemin vient nous chercher. Si notre vulnérabilité, elle est au niveau de notre caractère, ou de nos émotions, ou de notre spiritualité, ou de notre environnement, automatiquement, le chemin va venir nous chercher là où on est faible, puis nous confronter à notre faiblesse, à notre souffrance. Okay. Dans mon cas, moi, comme je l'avais dit dans l'émission initiale, c'est que ma faiblesse était la solitude, parce que je n'avais jamais fait de voyage seul, je l'avais tout le temps fait avec d'autres personnes. Puis c'était la première fois que là, je m'en allais m'aventurer complètement seul sur une étendue de temps. Ça, il fallait que je confronte cette solitude-là. Puis, mais pour quelqu'un d'autre, par exemple, c'est le physique. Puis pour d'autres, c'est même la spiritualité. Tous ne partent pas avec un agenda spirituel. Mais d'après tout ce que j'entends, rendu à mi-chemin, le spirituel vient à prendre le dessus parce que dans ce silence-là, il y a un dialogue qui commence à se faire.
C'est la solitude, c'est le silence, jour après jour, vous êtes tout seul avec votre bâton de marche, puis...
Bien, le matin, en fait, on part chacun à notre heure, disons, à l'heure qu'on veut. Moi, je partais à peu près à 6 heures du matin. Je me levais à 6 heures, je partais vers 7 heures moins quart. Puis, à partir de là, chacun est seul. Même ceux qui étaient en groupe vont avoir une tendance à marcher seul pour toute la journée. Il va y avoir des fois, on va croiser quelqu'un, il va marcher à notre rythme, puis là, à ce moment-là, on va se partager pendant un certain temps, mais c'est plutôt exceptionnel. La grande majorité vont se saluer, puis ils vont continuer. Puis ça va être comme ça pour les 30 jours.
Vous avez trouvé ça pénible, la solitude?
Non.
Non.
En fait, ça a été très difficile.
Ça a été le plus dur?
C'était ma limite. Je pensais que physiquement, que j'aurais de la difficulté à le faire. C'est vrai que ça a été pas facile physiquement, mais c'était pas là qu'était ma vulnérabilité. Donc, puis c'était pas au niveau spirituel parce que justement, je m'avais donné un itinéraire spirituel, puis je la suivais, j'avais une discipline face à ça. C'était pas nécessairement l'environnement parce que je sentais que je m'adaptais assez bien dans l'environnement au fur et à mesure que j'avançais. Puis c'était pas le caractère parce que là, je savais que j'avais beaucoup de patience, beaucoup de discipline. Ça, je savais que j'étais correct là. Mais au niveau de l'émotion, au niveau de la solitude, là, à tous les jours, c'était une grande épreuve. Puis à tous les jours, mêlé avec l'épreuve physique, j'avais le goût d'abandonner. Même dans mes notes personnelles, j'aurais écrit quelque chose comme « Je suis tanné, je marche plus, c'est fini, je prends l'avion demain matin, j'abandonne la route. » Mais après une nuit de sommeil, je continuais.
Notre invité est Jacques Frigault, c'est un pèlerin acadien. Il est allé sur le chemin de Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle. Il nous raconte donc cette belle aventure qui est à la fois une épreuve physique et puis un cheminement éminemment spirituel. Et pas parler, Jacques, de votre pèlerinage. Comment réagissent les gens quand vous racontez tout ça? Est-ce que les gens, habituellement, en général, comprennent ce que vous avez voulu vivre? Ou...
Ça me surprend tout le temps, disons. C'est comme... puis même, ça m'emmène de l'émotion parce que souvent, je pense que je suis une personne comme isolée dans ce que je vis. Puis quand justement qu'on entend une émission comme celle-ci ou même qu'on m'en parle en public, je suis étonné de voir que ça vient, ça interpelle des gens dans une réflexion. Peut-être par la manière que je le raconte, peut-être par l'élan que moi j'ai, mais ça m'étonne tout le temps parce que je sens que je m'en viens toucher quelque chose de profond dans l'être. Comme ça me touche moi-même profondément dans mon être à moi, ça naturellement ça me touche. Si ça m'interpelle peut-être à poursuivre la réflexion disons, avec des gens là-dessus.
Est-ce qu'on peut faire le voyage avec vous?
Oui.
Vous nous racontez un peu comment ça s'est passé. Vous êtes parti de quel endroit?
Je suis parti de Montréal, en fait. J'arrive à Madrid. De Madrid, je prends un train pour me rendre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je couperai à travers. En fait, il faut tout le temps se rappeler que Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est à la frontière de la France. Puis il faudra traverser du sud au nord, du sud de la France, mais qui est le nord de l'Espagne, jusqu'à l'autre extrémité de l'Espagne. Ça, arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un petit village, en fait, disons, un beau petit village. Puis c'est là où on va aller avec tous nos papiers, en fait. Moi, vous s'en rappelez, j'avais mes lettres de l'évêque, en fait, disons, puis qui m'introduit pour que je puisse avoir le crédential, qui est le passeport du pèlerin. Avec ce passeport, j'aurai le droit de rentrer dans les refuges, j'aurai le droit de le faire étamper partout où je passerai, puis qui sera ma crédibilité, en fait, pour recevoir à la fin ma Compostela, qui est le certificat d'accomplissement. Donc, je me repose là 2 jours, puis à partir de là, je m'en vais pour traverser les Pyrénées. Ce matin-là, je suis supposé d'avoir tout pensé, naturellement, parce que je suis tout enthousiasmé. Mais je pars à 6 heures du matin, puis tous les magasins sont fermés, tout est fermé, puis j'avais oublié de m'emmener de l'eau puis du manger. Mais moi, par mon enthousiasme, puis tout excité de grimper les Pyrénées, je pense que ça va être chose, je trouverai bien quelque chose en chemin. Ça sera une journée d'enfer, de 27 kilomètres, petit pas à petit pas, en montant dans une ligne directe, pas d'eau, pas de manger. Jusqu'à temps que j'arrive à Roncesvalles, qui est un monastère de bénédictins, où il y a seulement 2 hôtels. Une marche qui, normalement, prendrait 3-4 heures, m'a pris 11 heures. Ça, beaucoup de personnes ne l'avaient pas réussi, couchaient en montagne parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais moi, voyant que je n'avais pas de manger ni d'eau, là, je me disais, il faut que je me rende. Puis je me rends, mais épuisé parce que ça a été un vertical de 23 kilomètres. Puis après ça, de descendre 8 kilomètres pour me rendre à Roncesvalles. De Roncesvalles, là, on rentre dans la boue pour une journée complète.
Tout de suite, la boue.
C'est ça.
Ah,
sur les 2 premiers jours, c'est 2 journées où je dis non, je ne me rendrai jamais à Compostelle. C'est impossible. Je n'ai pas la capacité physique de faire ça parce que c'était dans la boue puis il fallait soulever les jambes complètement pour être capable de passer par-dessus. Puis c'était 27 kilomètres comme ça jusqu'à la prochaine endroit qui était la Rasona. Cela, j'arrive à la Rasona. Puis là, je me dis, non, je ne pourrais jamais faire ça. Puis malheureusement, ce que je n'ai pas réalisé, c'est que la 2e petite paire de bas que j'ai en dessous, qui était une erreur de jugement de ma part, disons, de placer, a une petite couture invisible, puis me coupe les 2 pieds, disons, sur le dessus des orteils, puis qui commence à faire des ampoules. Cela, je continue quand même à marcher. Je me dis, ça guérira, mais je pense pas que c'est les bas. Ça, je laisse les bas pareils, puis ça continue à s'infecter. Puis je me rends à partir de là jusqu'à à peu près Estella. Donc, pendant 4-5 jours, les pieds commencent à enfler, ils commencent à avoir des infections. Puis là, je vois, disons, que j'ai un vrai problème. Tout de Roncesvalles jusqu'à Estella, là, c'est la descente du 27 km, en fait, que j'avais monté. Mais c'est la descente qui va être longue parce que déjà Saint-Jean-Pied-de-Port est déjà haut, déjà d'avance, parce que c'est dans les Pyrénées. Donc, naturellement, la descente va prendre plusieurs jours pour me rendre. Par le temps, je suis rendu à Estella. Ça fait presque une semaine que je marche, presque. puis là, il faut que j'arrête, puis que j'aille voir pour mes pieds. C'est les ampoules, là. Il y a des ampoules, c'est l'infection. On me dit qu'il faut que j'arrête de marcher, il n'y a pas moyen. Mais on me dit qu'il faut que je me rende quand même à Logrono, qui sera à peu près comme 2 jours, disons, de Estella à pied. Puis qu'il faut que je me rende là en autobus. Mais quelle humiliation de penser qu'il faut que j'embarque sur un autobus, parce que tous mes collègues, en fait, ils sont prêts marcheurs. Je me rends quand même à Logrono. Je vais à un hôpital, là je me fais couper les ampoules, ils me nettoient tout ça. Puis là, il me dira que quand je serai rendu à Burgos, qu'il va falloir que j'y aille de nouveau à l'hôpital pour vérifier, disons, si tout est correct. Ça, là, je suis comme découragé. Okay? Mais je recommence à marcher, puis rendu à Santo Domingo, là, ça va pas pantoute. Là, je vois, disons, là, là, la solitude commence à rentrer. Donc, la première étape, qui était toute l'enthousiasme de la première semaine, ça a estompé à fur et à mesure qu'on avance. Puis là, il n'y a plus d'enthousiasme en tout. Là, c'est la dépresse.
Mal aux pieds, ça devait faire mal aussi.
Ça fait mal, mais là, il faut que je marche pareil, parce que là, on m'a dit à Logrono que je n'aurais bien d'autre, bien plus que ça sur le long de mon chemin. Puis il faut que je me fasse à l'idée que ça fait partie du chemin. Ça, là, mais ça commence à guérir, puis je remarque que ça va aller de mieux en mieux. Cela, maintenant, l'étape physique du premier quart est finie, puis le mal des épaules, puis tout ça est parti, parce que en fait, disons, à force de marcher, puis rendu à Logrono, ben là, à ce moment-là, c'est juste de finaliser l'étape des pieds, puis là, de commencer la deuxième étape, qui sera la solitude. On va faire à peu près une semaine dans la solitude. Là, il n'y a pas de contact beaucoup avec personne. C'est tous des petits villages, en fait, de Logrono jusqu'à Burgos. C'est une série de petits villages. Puis là, à ce moment-là, j'aboutis à Santo Domingo dans une église, tout découragé. Ça fait 3 fois que je téléphone à Rachel la même soirée. Puis là, à ce moment-là, je dis, ben, je vais aller à l'église, puis je vais offrir ça. Je rentre dans l'église à Santo Domingo. Il y a un coq puis une poule dans une enclave. Puis, il y a toute une histoire qui est rattachée à ce coq puis cette poule-là. Ce châssis-là, puis je dis, mais là, si tu m'entends, là, ben que le coq chante 2 fois, parce que s'il ne chante pas, c'est bien de valeur.
Tu m'en vas.
Je m'en vais, puis je sais que tu ne m'as pas entendu, puis je m'en vais demain matin, puis je prends l'avion, puis je m'en vais. Mais le coq a chanté 2 fois. À 2 reprises différentes, puis après ça, il s'attait, puis j'ai resté là 1h30, puis j'ai jamais entendu de nouveau. Cela, je sentais que j'avais été entendu dans ma détresse. Je suis comme tout repapé de nouveau. Je me dis, hey, là, je suis bon pour faire un autre bout, puis je marche à ce moment-là, disons, pendant plusieurs jours jusqu'à Burgos. Burgos, c'est une des grandes villes. En fait, Pamplona était peut-être la capitale de la Navarre, qui est la basque espagnole, mais Burgos, c'est la capitale du Rioja, où on fait le vin, pour ceux-là, disons, qui connaissent ça. Ça, c'est une grosse ville, en fait. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup ça. Il y a une grande cathédrale, Santa Maria, puis c'est la plus grosse cathédrale. En fait, on appelle ça la mère des cathédrales en Europe. Mais c'est merveilleux. Puis, je reste tout le temps seulement 1 journée, je continue à marcher, puis là, je rentre dans ma troisième étape qui m'emmènera jusqu'à Léon. Dans cette troisième étape-là, là, c'est les relations. Je commence à découvrir la grande famille espagnole, puis la grande famille des pèlerinos. Je commence à les rencontrer dans les restaurants, pas parce qu'il y en a beaucoup qui se sont éliminés, mais c'est que parmi ceux qui restent, on se rencontre pas mal aux mêmes endroits. Puis là, à ce moment-là, on commence à fraterniser, puis on a le goût de fraterniser un peu plus. Cela, on découvre la famille pendant cette semaine-là. Rendu à Léon, ça, c'est encore une autre grande ville. C'est la capitale de la Castille. Puis là, à ce moment-là, il y aura des anecdotes à compter là-dessus. Puis on est de Burgos jusqu'à Astorga sur du terrain plat. Ça veut dire des grands champs de blé où il n'y a rien. seulement un petit passage à travers du blé, puis où il y a un village à toutes les 25 kilomètres. Ben, les premiers jours, c'est intéressant, mais après une semaine et demie, dans le champ de blé, ça commence à prendre son âme. Ça, rendu à Léon, là, c'est un soulagement, parce que là, c'est une grosse ville. Puis, éventuellement, on se prépare à monter de nouveau une deuxième chaîne de montagne jusqu'à Astorga. Puis, à Astorga, là, il y aura une troisième grande chaîne qui nous mènera jusqu'à Saint-Jacques.
Vos anecdotes, qu'est-ce qui vous est arrivé en cours de route? Il y a eu une rencontre avec des chiens, à un moment donné?
Oui, il y a une journée, je sors d'un petit village. En Espagne, en fait, tous les petits villages ont des chiens, puis nous, on marche de bonne heure le matin. Donc, les gens ne sont pas réveillés encore, puis les chiens sont libres. C'est souvent des chiens errants qui nous attaquent. Puis on ne sait jamais quand s'y attendre. Il y a des matins, par exemple, il y a un matin en particulier, deux chiens sont cachés sous un arbre, on ne les voit pas, puis là, on marche, puis tout d'un coup, ça sort, puis ça nous attaque. La seule chose qu'on a, c'est notre bâton pour se défendre. Ceux qui n'auront pas de bâton, parce qu'il y en a qui marchent avec pas de bâton, ils trouveront ça beaucoup plus difficile parce qu'il y en a qui se font mordre. T'sais? Puis ça, tu as ça dans tous les villages. Les après-midi, on les voit pas quand on rentre dans les villages parce que là, il fait chaud, puis ils sont tous couchés, puis ils dorment. Mais les matins de bonne heure, disons, c'est l'enfer des chiens. Des fois, c'est des brigands. Il y avait un endroit où j'avais lu qu'il y avait des brigands. Mais ce matin-là, justement, je rentre dans une enclave pour marcher 5 kilomètres dans un boisé. Puis ce monsieur ici, il débarque de sa voiture, puis il dit « Je marche avec toi 2 kilomètres ». Il me dit ça en basque. J'ai dit « Ouais ». J'ai pensé « C'est mon matin ».
Ça en est un, oui.
Ouais. Il dit « Je cherche mes deux vaches ». Je regarde alentour, il n'y a pas de vaches. Mais je commence à parler avec lui de ses vaches, puis de son troupeau, puis de sa famille, puis tout ça. Puis je découvre un bonhomme, en fait, très sympathique. Puis finalement, après 2 kilomètres, il tourne de bord, puis il me dit que ses deux vaches sont pas là, parce qu'il n'a pas vu de piste.
C'est des leçons de vie, hein?
Mais parce... c'est oui. De l'abandon,
faire
c'est de la confiance.
Oui.
Okay? Donc, chaque jour, c'est comme quelque chose, tout le temps, de nouveau, comme ça, d'imprévu. Ça, à ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qui va arriver d'un jour à l'autre.
Jacques Frigo nous raconte son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. On revient dans un tout petit moment. Jacques Frigo est avec nous de la région de Tracadie-Chaila. Jacques est allé en juin dernier à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a fait ça à pied, au-delà de près de 900 kilomètres. Ils étaient 150 environ au départ. Ils étaient 3 ou 4. 3 avec lui, sans doute, à la toute fin. Il est très content d'avoir réussi son pèlerinage qu'il avait préparé de longue haleine. Il vous est arrivé toutes sortes d'épreuves, de choses épouvantables.
Peut-être celle qui est la plus significative, disons, qui montre un peu ma naïveté, mais en même temps, l'intervention de la Sainte Vierge, des fois dans un voyage, c'est que je suis à Léon, puis j'arrive à la basilique de Saint-Isidore, puis il y a un brigand qui est assis, ou un quêteux qui est assis dans la porte d'entrée, puis lui, il quête. Mais doit à côté de lui, il y a une petite enclave, puis il y a un banc de ciment, puis il y a une sacoche neuve qui doit être là. Je prends pour acquis qu'il ne sait pas que la sacoche est là, puis moi, je prends pour acquis que c'est un touriste ou une touriste qui l'a oublié là. Ça, je vois la sacoche neuve, je la soulève un petit peu, je vois qu'elle est pesante, puis là, je me dis, je ne la ouvrirai pas, parce que là, si je la ouvre, ils vont dire, je l'ai volée. Parce que moi, là, j'ai mon pack-sac, puis j'ai toutes mes affaires, puis ça peut paraître comme un brigand moi-même. Ça, je me mets à me promener dans la grande cour à l'intérieur de l'église pendant 1 heure à peu près avec la sacoche au bout des bras, puis je pointe pour voir s'il y a quelqu'un, en fait, qui a perdu sa sacoche. Puis finalement, il n'y a personne qui la réclame. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Disons, mais là, je sais que le quêteux m'a vu. Cela, j'ai pensé, il va voler la sacoche. Ça, je m'assis à l'endroit où je l'avais trouvée, je la ouvre. Qu'est-ce que je trouve? 5 grosses roches dans la sacoche. Là, je regarde alentour un peu comme si c'était Candid Camera. Tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a joué quelque chose. Mais finalement, disons, ce que je me mets à réfléchir, c'est qu'à Medjugorje, dans mon deuxième voyage, on parle, disons, des 5 roche, en fait, que la Vierge, disons, nous demande de vivre, en fait, dans notre vie. Puis elle l'exprime à travers du Père Iozo, disons, sous le signe des cinq roches. Parce qu'il y aurait bien pu en avoir six, il y aurait pu en avoir quatre, mais il y en avait cinq. Puis ça qui est le plus comique, peut-être, c'est peut-être moi, avec ma naïveté, de me promener partout avec une sacoche remplie de roches.
Comment avez-vous vécu le retour? Après avoir vécu ça là, pendant un mois, comment avez-vous réagi en revenant?
Le bruit. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés avec le bruit parce que, rendu dans la troisième semaine, j'avais plus de pensée, j'avais plus d'analyse, j'avais plus de réflexion quelconque. La seule chose qui comptait, c'était de me rendre, c'était les pieds parce que j'avais eu une mauvaise expérience, puis c'était manger et dormir, puis c'était le silence intérieur. J'étais rendu dans la troisième, quatrième semaine à cette étape-là. Ça, naturellement, de cette étape-là jusqu'à la fin, ça sera un grand silence intérieur qui me parlera beaucoup. Puis quand j'arriverai dans la réalité de ma région, le bruit va m'agresser énormément à un tel point où je ne pourrai pas rester à des endroits où il y a du bruit puis où les gens sont affolés un peu.
Parce qu'il y a eu une fête au Homard à un moment donné, puis ça a été la panique.
Oui, ça a été une panique. J'ai resté à peu près comme trois quarts d'heure. Pourtant, les gens étaient tout amicaux, même c'était tout plaisant. Mais il y avait tellement de bruit à cet endroit-là que j'ai comme paniqué intérieurement, puis j'ai dit, il faut que je m'en aille, je peux pas rester.
Puis, votre mère aussi, qui conversait avec vous à un moment donné, qui parlait, mais vous, toute l'attention était centrée sur les pieds.
Oui, parce qu'elle me posait des questions, puis je lui disais, regarde, je peux pas me concentrer sur ce que tu me demandes. Là, j'ai ma jambe est enflée, puis c'est la seule chose qui me préoccupe pour le moment présent. Là, ça, c'est que tout focalise, en fait, sur l'existence du moment présent, puis tout ce qui est analytique, tout ce qui est questionnement, même au départ, on va se poser un paquet de questions, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis ici, disons quoi, tu sais pourquoi, mais rendu à mi-chemin, c'est plutôt arrivé au point, parce que chaque jour a son épreuve, c'est d'arriver au point.
Qu'est-ce que ce voyage, cette aventure vous a apporté spirituellement?
Les trois voyages ont été un dialogue avec Dieu dans ces différentes personnes. Dans ce voyage ici, je dirais que le sommet de tout le voyage a été dans un grand champ de blé, une journée où il y avait une petite brise, puis où il y avait des coquelicots sur le bord du chemin. Puis cette brise-là faisait bouger les coquelicots. Puis j'avais une certitude dans mon âme que Dieu me parlait. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il me disait. Mais j'avais la certitude d'avoir été parlé. Puis, c'était tellement fort que je pense que tout le reste disparaissait comme souffrance parce que ce moment-là était comme dans un autre état d'être. Des moments comme ça, j'en ai eu dans ce voyage ici, comme dans les deux autres voyages. Puis c'est une communion très intense avec le Dieu qui nous habite. Pas le Dieu extérieur à soi, disons, mais le Dieu qui est à l'intérieur de soi-même, puis qui nous dit fondamentalement, je t'aime. Puis je pense de l'entendre, de le goûter, de le sentir, c'est très fort intérieurement, puis ça nous donne une assurance de vie, puis un sens tellement plus profond, tellement plus enraciné.
Vous allez publier un livre?
Oui. En fait, il est complété présentement, il est parti à l'édition, puis il devrait sortir à la fin du mois de février, début mars. Ça va s'appeler « Le carnet de route du pèlerin acadien » pour le jubilé de l'an 2000. Il va sortir aux éditions de la Grande Marée. C'est un volume qui raconte les trois voyages, mais qui rencontre le thème central, c'est la rencontre de Dieu par le silence. Puis, ça raconte à tous les jours qu'est-ce qui se passe dans chacun de ces voyages-là à l'intérieur du pèlerin.
Donc, pour le dernier pèlerinage, on aura de jour en jour vos souffrances, vos épreuves et en même temps ce qui se passe dans votre esprit.
C'est ça. Puis, comment on se prépare pour une marche comme ça? Puis, la liste, en fait, de tout ce qu'il nous faut. Il y a tout, en fait... tout ça en fait que quelqu'un qui y réfléchit, ou même quelqu'un qui ne peut pas le faire, mais qui aurait aimé de célébrer le jubilé de l'an 2000, bien, il peut passer à travers de ces trois voyages-là, un peu comme si qu'il ou elle y était.
Le referiez-vous?
Non. Non, je pense que c'est des expériences uniques, en fait. Moi, je n'ai jamais refait beaucoup des voyages que j'ai faits d'une façon unique. Comme ça, c'est tellement sacré, puis c'est tellement comme spécial que de le refaire, ça perd déjà sa saveur. Je pense qu'on vit quelque chose comme ça une fois dans sa vie.
Comment est-ce que ça vous habite maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui même, là?
Aujourd'hui, c'est comme une grande satisfaction d'avoir accompli ce que je m'avais dit que je ferais. C'est comme, en même temps, une porte d'entrée au jubilé de l'an 2000, à la grande fête, OK? Puis nous, les Acadiens, ben, on est des fêteux. Ça, pour moi, disons, en fait, la préparation à la fête, c'est un peu comme la préparation de la table nuptiale, on prépare tout. Mais là, quand vient la fête, on fête, puis on fête, ben, on fête vraiment. Mais j'ai le goût à la fête, maintenant.
C'est une célébration.
Maintenant, c'est ça. Oui.
Jacques Frigault, merci beaucoup. Et aux gens qui voudront se procurer le livre, vous nous rappelez les éditions?
De la Grande Marée. Ça va être au Salon du Livre, en fait, Edmundston, pour le mois d'avril, je pense.
Merci bien, Jacques Frigault.